BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 1 minute, c'est la seconde partie des experts avec toujours autour de la table Emmanuel Combes, Patrick Artus et Erwan Lenoant pour parler des 250 ans de l'indépendance des États-Unis. C'était ce samedi, le 4 juillet, 4th of July. Le modèle américain est-il encore un modèle? C'est la question que je vous pose à tous ici. Un modèle qui s'est réinventé énormément autour de la technologie, de l'énergie, mais aussi de la dette. Patrick Artus, le modèle américain est-il plus puissant aujourd'hui qu'il n'était il y a 20 ans?
Le problème, c'est que les caractéristiques du modèle américain qui le rendent puissant sont inacceptables en Europe. Le modèle américain, il est basé sur les inégalités. Oui. Et donc, on ne distribue pas les gains de productivité aux salariés, les gains de productivité abondent les profits des entreprises. Donc, les entreprises ont une profitabilité très, très élevée, bien supérieure à celle des entreprises européennes, qui distribuent les gains de productivité à leurs salariés. Ouais. Et donc, il y a une capacité d'investir, de faire de la recherche, etc., très, très élevée aux États-Unis.
Mais il y a des salaires aussi beaucoup plus élevés. On a l'habitude de dire sur ce plateau que si on a vu la productivité américaine pendant 20 ans, le salaire moyen en France ne serait pas de 2200 euros, mais de 3300.
Mais c'est...
Donc, tout le monde en profite,
mais il faut voir le point de départ. C'est la capacité d'investir et de faire de la recherche. Les entreprises américaines font presque 3 points de PIB de recherche-développement. Les entreprises françaises, 1,5 point. Donc, c'est 1 à 2. Et donc, quand vous faites plein de recherches, ben vous trouvez. Et en plus, vous avez de l'aide publique à la recherche qui est très bien organisée aux États-Unis.
Et pas de principe de précaution.
La DARPA, etc. Et donc, c'est normal que les États-Unis prennent de l'avance sur l'Europe dans tout ce qui est technologique. Mais à nouveau, le moyen de cette avance, c'est la capacité d'investissement des entreprises et puis des marchés financiers extraordinairement développés avec des fonds de pension, avec du venture capital qui lève entre 100 et 200 milliards de dollars de par an. Enfin, et donc il y a capacité de financement, la capacité d'investir. Et donc, du coup, il n'y a plus de problème de financement, puisque même si vous avez un déficit public, un déficit extérieur absolument colossal, vous êtes suffisamment attrayant pour capter l'épargne du monde. Hein.
Ça a été un sujet quand même, le déficit pour Trump. Hein, il a mis en place ses tarifs aussi pour réduire ce déficit. Je rappelle qu'on est à plus de 1000 milliards de dollars de déficit.
Oui. Mais est-ce que ça peut craquer? Est-ce qu'il peut y avoir une grosse crise financière aux États-Unis? Ce qui peut faire une crise, c'est une grosse déception sur la rentabilité des investissements dans l'IA. Puisque c'est les boîtes de l'IA.
Il y a des questions en ce moment sur. Parce que l'IA coûte cher.
Ça coûte extrêmement cher. Il y a 800 milliards de dollars investis cette année, 1000 milliards de dollars investis par un tout petit nombre d'entreprises.
Les chiffres sont dingues.
Et donc, si la rentabilité n'est pas au rendez-vous dans quelques années, il y aura une crise financière aux États-Unis.
Vous pensez qu'il y a une mule sur l'IA, Patrick Artus?
Mais on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas si ces investissements. C'est des investissements qui déboucheront sur des profits dans une dizaine d'années. La composante IA de toutes les boîtes de la tech est en perte. Et les boîtes de l'IA, comme OpenAI,
ils font deux fois
leur chiffre d'affaires. Et donc, on ne sait pas si on aura une explosion de la profitabilité dans 10 ans de ces boîtes, ce qui avalisera leur cours boursier, leur attractivité pour les investisseurs, ou s'il y aura un dégonflage des anticipations et une crise financière liée à l'IA.
Pour l'IA, tout va dépendre de la capacité à diffuser l'IA, parce que c'est là que ça va devenir rentable. C'est toutes les applications particulières dans les entreprises qui permettront de rentabiliser les investissements. Mais pour répondre à votre question, ce que je trouve vraiment super intéressant depuis 10 ans, 15 ans, c'est qu'on voit à nouveau deux visions d'innovation. Et ça, c'était bien montré d'ailleurs dans pas mal de rapports. Je pense qu'il y avait un rapport de Tirol l'année dernière. L'Europe, elle fait quoi? De l'innovation incrémentale. Oui. On n'a pas de nouveau géant. C'est le géant d'hier qui fait la version 12 du produit numéro 11. Alors que vous regardez aux États-Unis, c'est cette capacité, je trouve, à faire des choix. Alors faire des choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire renoncer aussi à un certain nombre, entre guillemets, d'industries. Regardez l'automobile américaine, si vous laissez Tesla de côté, c'est pas formidable. Oui. Mais on fait des choix, on va au bout des choix et on est dans l'innovation radicale. Et quand vous regardez les orientations de l'investissement, c'est quoi? Biotech, bien sûr, IA. Plus généralement, d'ailleurs, tout ce qui est numérique au sens large, hein, services financiers, etc. Vous voyez, je pense que c'est la différence fondamentale. On ne sait pas, en Europe, faire de l'innovation disruptive, ou en tout cas la faire croître. Parce que comme le disait Patrick, on est assez bon en recherche fondamentale. On sait créer des startups. La question, c'est pas a-t-on des startups, c'est a-t-on des nouveaux géants? Cherchez-les en Europe. Très honnêtement, il n'y en a quasiment pas dans la tech. Ou alors, c'est des géants qui vont être au niveau national. Voyons, on va avoir un Doctolib qui va se dire ensuite, à cause de la fragmentation du marché européen.
La fragmentation du marché, on est d'accord. Comme pour les marchés.
Mais c'est pas que ça. Ça suffit pas de dire les Américains ont un grand marché. Ils ont un grand marché et ils ont cette idée sur laquelle.
Mais c'est piloté, ce que vous nous dites.
L'innovation,
c'est une stratégie.
Finalement, c'est la destruction créatrice. Il faut accepter de faire des choix et préparer l'avenir, c'est aussi renoncer au passé. On ne sait pas faire ça en Europe.
Comment le modèle. Bon, les États-Unis, c'est dans l'imaginaire collectif le pays du libre-échange, du libéralisme pur et parfait. C'est pas tout à fait le cas. On le sait depuis le bouquin de Philippon, hein, The Great Reversal. Et là, ils sont en train de devenir très franchement protectionnistes, les États-Unis. Comment on explique cette bascule?
Mais c'est, je pense que c'est, là aussi, le postulat est faux. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas un grand pays de libre-échange. Ouais. Ils ont pu avoir des périodes de libre-échange et puis ils ont eu des grandes périodes d'isolationnisme, des grandes périodes de fermeture, notamment entre les deux guerres au XXe siècle. Je vous rappelle qu'il y avait des quotas d'immigration très élevés, qu'il y avait que la politique de Roosevelt, avant qu'il soit contre train d'être emmené dans la guerre, était très isolationniste. Donc il y a ces deux traditions aux États-Unis. Il y a une tradition d'ouverture et une tradition également de fermeture. Aujourd'hui, c'est clairement la tradition de fermeture qui prend le dessus. Mais ce n'est pas spécifique. Je ne crois pas que ce soit contradictoire avec avec l'histoire des États-Unis.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pragmatiques.
Ça veut dire qu'ils sont pragmatiques, mais que comme tout le monde, ils sont pétris de contradictions et que ils savent évoluer. Par contre, ce qui fait la force du modèle américain, je pense, c'est effectivement d'aller là où est leur intérêt. Emmanuel disait aux États-Unis, on a su faire des choix. En fait, le marché a fait des choix parce que c'est le marché qui domine. Il y a des différences culturelles qu'il ne faut pas nier. Je ne pense pas que, évidemment, le modèle américain ne peut pas être répliqué sur le modèle européen. Mais il n'empêche, on parlait d'éducation, ils ont les meilleures universités du monde, ils ont les meilleurs centres d'innovation. Il y a toujours, les États-Unis, c'est ça, c'est une capacité de conquête. C'est cette idée qu'il y a la nouvelle frontière qui est toujours derrière à aller chercher. Ça s'explique pour des raisons historiques qui sont profondes. On n'a pas cette culture-là en Europe. Mais c'est ça aussi qui fait qu'il reste ce pôle d'attraction et d'attractivité mondiale.
Il y avait des travaux très intéressants de Stéphanie Stancheva qui montraient qu'aux États-Unis, tout le monde pensait qu'il pouvait faire fortune, alors que dans la réalité des faits, il y a finalement moins de mobilité sociale qu'en Europe, et que c'était exactement l'inverse en Europe. Ouais. On a l'impression que l'ascenseur social est condamné, alors qu'en réalité, on peut progresser plus facilement et plus rapidement qu'aux États-Unis. Ça, c'est quand même étonnant, Patrick Artus.
Mais il faut voir que le modèle américain, il est basé sur les monopoles. C'est les travaux de Thomas Philippon. Si vous distribuez pas vos profits, enfin, vous distribuez pas de hausse de salaire, le salaire médian en termes réels aux États-Unis a augmenté de moins de 1% par an, alors que la productivité a augmenté de 2,5% par an depuis 20 ans. Donc, vous distribuez un tiers des gains de productivité, vous les gardez les deux tiers en profit, et puis, en plus, vous avez des rentes de monopole. Regardez Nvidia, il y a un taux de marge absolument monstrueux, mais ils ont un monopole sur les...
Hein, oui.
Bon, et donc, si vous avez des rentes de monopole plus un partage des revenus extrêmement favorable, vous avez d'énormes moyens. Alors, le problème, c'est le futur, parce que ces énormes moyens, les grandes entreprises américaines étaient spécialisées. Enfin, je veux dire, dans la tech, vous voyez, Apple ne faisait pas la même chose que... Aujourd'hui, ils courent tous...
Ils peuvent marcher un peu sur les pieds et ils se posent
tous... Alors maintenant, ils courent tous vers le même but, qui est avoir un modèle d'IA dominant. Et ça, c'est quand même une rupture. Et donc là, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude, est-ce qu'il n'y a pas un surinvestissement massif et est-ce qu'il n'y a pas une surenchère entre ces entreprises alors qu'avant, elles avaient des secteurs d'activité très bien délimités.
Bon. Pour revenir sur la question du protectionnisme, moi je partage le point de vue d'Erwan. D'abord, les États-Unis sont un grand pays au sens
géographique.
Et mécaniquement, il y a une relation inverse entre la taille d'un pays et son taux d'ouverture. C'est pas un pays très ouvert, hein, même en situation de entre guillemets, libre.
Plus on est grand, plus on peut être autonome.
Ah oui, il importe relativement peu en pourcentage de son PIB. Mmh. Et puis surtout, moi, je crois que ça vient de loin. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que Trump 2, c'est pas un accident. Ça remonte aux années 2000-2010. Je veux dire, les travaux de David Autor sur le choc chinois. De mémoire, le premier choc chinois, ça doit être 2010-2012. Avec déjà Obama, hein, souvenez-vous, qui avait mis des droits de douane sur les pneus chinois.
Oui.
Il y a quand même cette idée sur laquelle il y a une nouvelle donne dans le monde. Et pour le coup, ils ont relativement raison. Hein, avec l'irruption de la Chine, que personne, en tout cas, dont personne n'avait mesuré l'ampleur. Alors, pas tellement Chine, usine du monde, ça, tout le monde était au courant. C'est Chine, pays technologique, pays de high-tech. Et là, on voit bien que la réaction protectionniste américaine, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont fait des choix, et ils ont abandonné d'autres secteurs d'activité. Pour le coup, ils sont devenus importateurs nets. Mmh. Ils ont même perdu, d'ailleurs, leurs compétences. Ce qui explique que quand ils mettent des droits de douane, bah, finalement, tous les travaux des économistes, que font les Chinois ? Ils reportent finalement la taxe dans le prix parce qu'ils savent que les Américains n'ont pas de substitut. Donc attention, il y a aussi cette idée, cette prise de conscience depuis 15 ans, hein, qu'on a vu sous Obama, sous Trump 1, sous Biden. Biden n'a pas remis en cause cette idée.
Que tout le monde a mené à la même politique,
que la Chine,
c'est une continuité.
On est largué technologiquement dans certains secteurs.
Trump le fait en nous mettant des baffes plutôt que nous...
Oui, mais je reviens sur le sujet chinois. C'est-à-dire, il y a l'idée que la Chine est une menace technologique dans certains secteurs hors numérique. Attention à cette image d'Épinal, les Américains sont forts en tout. Non, ils sont forts essentiellement sur tout ce qui est tech et numérique. Mais vous prenez l'automobile, pardon, à part Tesla, les voitures électriques, pardon, elles viennent d'où ? Elles viennent essentiellement de Chine. Donc c'est cette prise de conscience qu'ils sont en retard. Et ce réflexe-là, il nourrit nécessairement un retour au protectionnisme.
Erwan, un dernier mot.
On va revenir en deux mots sur la différence culturelle. Vous citiez les travaux de Stancheva, il y a eu Tirol, il y a eu Alesina avant, mais c'est des raisons profondes. D'ailleurs, nous, on est un continent. Pourquoi est-ce que nous, on croit, les Européens, on croit moins au marché et on se défie plus de la liberté? Parce qu'on est un continent qui, depuis des centaines d'années, on se fout sur la gueule régulièrement. On a appris à ne pas faire confiance à nos voisins et à dire, si on le laisse faire, ils risquent de m'attaquer. Les États-Unis, il y a eu cette culture où il y avait la nouvelle frontière. Mon voisin m'emmerde, je me déplace à 100 km et je crée quelque chose de nouveau. Je crois que c'est des traits culturels qui expliquent ces différences aussi.
Bon, qui seront difficiles à modifier du coup, hein, Patrick Artus.
Le problème de l'Europe, c'est que même à Aix, on nous a rabattu les oreilles du grand marché européen, le marché unique, donc 450 millions de consommateurs. Donc si on regarde les travaux du FMI, sur les biens, les obstacles à la circulation des biens entre les pays européens, c'est l'équivalent d'un droit de douane de
42%. 40%, absolument.
Et pour les services, c'est l'équivalent d'un droit de douane de 110%. Vous voyez les problèmes du secteur des banques italiennes qui veulent s'implanter en Allemagne, et le gouvernement allemand fait tout pour que ce soit pas possible. Et donc, télécom, vous avez des télécom qui sont pays par pays.
On devrait avoir trois
opérateurs télécom par pays. Donc il y a une segmentation. Il n'y a pas de grand marché. Il n'y a pas de grand marché du financement. Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque supranationale. Ah oui. Et donc en réalité, c'est une superposition de petits marchés segmentés. Et donc tant que ça ne sera pas corrigé, et l'évolution en particulier des Allemands ne va pas dans le sens de la correction, l'Europe n'aura pas de grand marché. Il faudra se résigner à avoir des tout petits marchés.
Et pour rebondir sur ce que disait Patrick, danger d'une fusion-acquisition en Europe, puisque si vous avez des petits marchés, cette fameuse comparaison que j'entends à longueur de journée aux États-Unis, il y a 3 opérateurs, il y en a 80 en Europe, on est fou en Europe. Non, on n'est pas fou, il y en a 3 par pays. Donc par définition, si vous avez des marchés domestiques et que vous fusionnez et que vous passez de 3 à 2, eh bien vous... Attention, le vrai sujet en Europe, à nouveau on prend le problème à l'envers, faites le grand marché. Une fois que vous aurez fait le grand marché, là vous ferez des fusions, acquisitions domestiques. Mais à date, on est quand même essentiellement sur des marchés domestiques, en tout cas dans les services. Donc vous voyez, le sujet est souvent mal posé. On nous dit les Européens, on va y venir à ce sujet de concurrence, ils ont rien compris au droit de la concurrence. Mais non, ils ont très bien compris le droit de la concurrence, simplement les marchés sont nationaux. Si vous avez un marché national, toute opération de fusion est potentiellement dangereuse.
Alors on va continuer, on va justement parler des fusions-acquisitions, puisque le marché repart très très fort, plus 49% dans le monde en valeur, une hausse de près de 90% aux États-Unis, et l'Europe qui revient dans le jeu avec des très gros deals industriels. Là, on vient d'annoncer, par exemple, Thales qui rachète Exail pour près de 4 milliards d'euros. Question simple, est-ce que le réveil stratégique, est-ce que c'est le signe d'un réveil stratégique de l'Europe ou juste une vague de, consolidation défensive.
Il y a plein de cas possibles. C'est ça qui est intéressant dans cette vague de fusion. Il n'y a pas un seul motif. Il y a un premier motif, c'est la bonne vieille consolidation. Bah, typiquement, l'ascensoriste, je crois que c'est connu, hein. Qui va devenir numéro un mondial. Bah, je rachète le numéro 2 ou le numéro 3. C'est de la consolidation. Comme le marché est mondial, ça pourrait passer. Hein, toujours pareil, la taille du marché influe sur la décision des autorités de concurrence. Donc, on va avoir de la consolidation. Je crois qu'on voit beaucoup quand même d'opérations de diversification, de relais de croissance, notamment liés directement ou indirectement à l'IA. Oui. Schneider, Engie, etc. Donc, il y a quand même cette idée qu'on est devant une révolution industrielle. Alors, regardez, Engie, c'est intéressant. Hein. J'ai un marché qui est les data centers. Je vais racheter une boîte pour faire justement de l'électrification de data centers. Donc, il y a quand même cette idée qu'on est dans une révolution industrielle. Exel, même chose. Hein. Les drones, c'est quand même une révolution. C'est une autre manière de faire la guerre. Il n'y a pas 50 entreprises dans le monde qui savent faire des drones sous-marins. Bah, le premier qui passe à l'acte, qui passe
à la production, quoi.
Va présenter le marché. Il n'y a pas 50 entreprises à racheter. Donc, il y a quand même cette idée de nouveaux relais de croissance. Et puis, quand même, pour les États-Unis, il y a cette idée, il y a des droits de douane. Si je veux les contourner, c'est la bonne vieille théorie économique. Je fais ce qu'on appelle du tarif jumping. Je passe par-dessus le droit de douane et j'ai deux moyens de passer par-dessus le droit de douane. Soit j'achète un champ, ça s'appelle du greenfield. Du greenfield, ça prend 3 ans. Soit je rachète un acteur local déjà implanté. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. On pourrait dire que la politique de Trump sur ce volet-là a plutôt réussi. Alors après, on pourrait dire mais il y a d'autres moyens moins distorsifs pour attirer les investissements étrangers que de mettre des droits de douane. Il suffit en fait de faire des incitations fiscales. Mais on voit bien, par exemple, dans la pharma, c'est un sujet que je connais bien, dans la pharma, on voit bien les opérateurs vous dire de toute façon, pourquoi est-ce qu'on exporte aux États-Unis, non pas pour fabriquer et exporter dans le monde entier, pour avoir accès au marché local, eh bien, on va faire soit un investissement greenfield, soit on va faire une merger, on va racheter des acteurs domestiques. Donc, les motivations sont multiples.
Ce bouillonnement, quand même, Erwan Lenoir, hein, c'est le signe d'un retour de la confiance des entreprises ou simplement le fait que maintenant, on est à l'ère des géants et que donc, pour survivre sur le nouveau marché du capitalisme, il faut être costaud, quoi.
Je suis pas certain que ce soit un retour de la confiance. Je pense que c'est plutôt le signe d'une transition économique où il y a, comme le disait Emmanuel, de nouveaux modèles économiques qui émergent, d'autres sont en train de disparaître. On a une reconfiguration où effectivement un certain nombre d'entreprises se disent pour exister dans la compétition internationale et c'est aujourd'hui et celle qui vient, il faut grandir. La question est aussi celle dont parlait Emmanuel, c'est comment va se faire l'appréhension par le droit de la concurrence. Alors, j'en parle devant un ancien vice-président de l'autorité de la concurrence, donc j'y vais avec prudence, mais il me semble que la Commission européenne a donné des signaux montrant qu'elle était relativement, qu'elle commençait à réfléchir, à être ouverte. Ça va pas être une révolution, mais qu'il y a un certain nombre de signaux pour faciliter des consolidations dès lors qu'effectivement on s'engage vers un marché, vers une réalité d'un marché au moins qui n'est pas
un
que national.
Un peu plus de politique industrielle et un peu moins de bien-être du consommateur.
Non, je crois pas que ça soit. Mais je veux pas monopoliser la parole, mais en deux mots,
rapidement.
Une fusion, ça a deux effets. Ça peut faire monter les prix, ça peut faire baisser les coûts. Jusqu'à aujourd'hui, la Commission et d'ailleurs l'autorité de la concurrence, dont je vous ai parlé, ont regardé uniquement le risque de hausse de prix et on disait les gains d'efficience, tout ça, c'est spéculatif, c'est pas démontré. Or, intellectuellement, c'est faux, puisqu'une fusion peut avoir un effet sur la baisse des coûts. Et l'évolution du logiciel de la Commission, ça va être de dire si vous venez avec une démonstration, qu'il y aura bien des baisses de coûts, donc des gains d'efficacité qui viennent compenser l'atteinte à la concurrence, alors j'autoriserai la fusion. C'est juste un bon raisonnement d'économiste. Mais attention, on n'ira pas au-delà, on aura peut-être si dans certains secteurs stratégiques, défense, vers un argument de résilience. Ça n'est pas bon pour la concurrence, mais c'est compensable par un argument en termes de résilience économique, mais on n'ira pas tellement plus loin. Donc attention à ne pas trop surinvestir. Je vois pas la Commission dire, au nom d'une politique industrielle qui va faire émerger un géant et faire monter les prix, j'autorise une fusion. Pardon, pour l'économiste, être un géant n'est pas un signe nécessairement d'efficacité. Pour moi, un bon géant, c'est un géant qui a réalisé des gains d'efficience. C'est le fameux 1 plus 1 égale 3. Si se marier, c'est juste faire de la consolidation pour faire payer les consommateurs européens, en réalité, utiliser l'Europe comme une rente, pour partir à la conquête des marchés non européens.
C'est un peu ce qu'ont fait les États-Unis, non ? Ça renforce les boîtes, quand même.
Ça renforce les boîtes, au détriment, quand même, du consommateur américain.
Ah oui, ça, bien sûr. Patrick Artus, votre analyse de ce nouveau boom du M&A, des fusions.
D'abord, c'est un boom très américain. En Europe, c'est entre 5 et 15% la hausse du montant des menées entre 2024 et 2025.
Non, mais reviens dans le jeu un peu quand même. On sent que ça bouge sur le marché européen.
Oui, mais c'est surtout un truc américain. Ouais. Et donc, pourquoi aux États-Unis il y a une explosion de menées? Vous avez balayé les trois explications possibles. Il y a un choc technologique, une nouvelle technologie. Donc, il faut absolument investir dans cette nouvelle technologie. Et vous n'allez pas tous développer des modèles d'IA en interne. Donc, vous faites des acquisitions de boîtes qui vous donnent des modèles d'IA. Vous n'allez pas tous investir dans des data centers. Vous allez acheter une boîte qui maîtrise la technologie des data centers. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent disponible. Les entreprises ont les moyens.
Le sujet de la profondeur de marché.
Les moyens, elles peuvent payer en actions. Elles peuvent. C'est trois tiers. Hein, c'est les financements, c'est un tiers en actions, un tiers sur le marché de la dette privée, et un tiers par de l'endettement traditionnel. Et puis trois, il y a effectivement l'effet protectionnisme et l'effet coût. Si vous êtes dans un chimiste européen, vous ne pouvez pas être absent du marché américain. Vous payez votre gaz naturel 4 fois moins cher aux États-Unis qu'en Europe. Donc, ça vous rentabilise une délocalisation d'activité. Donc, ça, c'est les trois explications. Mais c'est surtout un modèle... C'est pas énorme. Il y a quelques opérations spectaculaires en Europe, mais si vous regardez les statistiques que fait EY, etc., c'est beaucoup de petits deals en Europe. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gros deals. C'est beaucoup de petites opérations.
C'est vrai qu'on n'a pas encore vu de deal à plusieurs dizaines de milliards.
Et beaucoup de deals basés sur des LBO aussi. Donc c'est des deals plutôt de private equity.
Opération à l'effet de levier, pas l'endettement.
Il y a des deals structurants. Quoi.
Je vais revenir sur le lien politique de concurrence, politique industrielle. Vous avez dit, Raphaël, il serait temps que l'Europe utilise finalement les fusions-acquisitions pour faire de la politique industrielle.
Bah oui, on voit que ça coince à chaque fois. Alors, entre UniCredit, Commerzbank, le SCAF.
Alors ça, c'est pas un problème de politique de la concurrence. C'est les États, comme le disait Erwan tout à l'heure, qui
veulent. Il y a aussi un sujet politique là-dedans.
Alors justement, j'en viens au sujet politique. Et si vous me permettez une brève anecdote, quand j'étais à l'autorité de la concurrence, vous le savez, nous avons interdit M6 TF1.
Oui.
On s'est fait beaucoup réprimander. Moi, je pense qu'on a eu raison à l'époque. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Pardon, rien n'empêchait le décideur politique, en l'espèce le ministre de l'économie, de dire « c'est très bien le droit de la concurrence ». Mais moi, je ne suis pas le ministre de la concurrence, je suis ministre de l'intérêt général. Il y a un article qui s'appelle le pouvoir d'évocation, qui donne pouvoir au ministre de dire « au nom d'autres intérêts que la concurrence ». Donc, je ne demande pas au ministre de refaire une analyse de concurrence. Les experts ont fait leur travail. Au nom notamment de la compétitivité, de l'emploi, j'autorise la fusion. Que ne l'a-t-il fait ? Pardon, chacun a sa place. Ne demandons pas à une autorité de la concurrence qui n'est pas armée pour cela de faire de la politique, fuse de la politique industrielle. Par contre, pourquoi l'homme politique ne prend pas ses responsabilités ? Et moi, j'ai toujours soutenu l'idée suivante. Pourquoi en Europe, nous n'aurions pas le même système qui existe en France, qui est ce fameux système de pouvoir d'évocation. La Commission dirait, Alstom Siemens, c'est pas bon pour la concurrence, et je pense qu'elle a eu raison. Regardez, sept ans après, on a bien deux géants européens plutôt qu'un, et en plus on a de la concurrence. Par contre, rien n'empêcherait le Conseil européen, en réalité les chefs d'État, de dire, écoutez, nous, on trouve que la concurrence, ça n'est pas l'alpha et l'oméga, au nom de la résilience, au nom de la souveraineté, quel que soit l'argument, nous outrepassons la décision de la Commission, mais nous nous assumons la responsabilité. En réalité, les hommes politiques font porter aux autorités de concurrence, c'est-à-dire aux experts, le propre poids de leur impuissance et de leur manque de courage. Mais pardon, je le répète, la fusion M6-TF1, si le ministre l'avait voulu, elle aurait été autorisée.
Très intéressant. Patrick, puis Erwan Lenon.
Il y a un autre sujet qui est l'efficacité de ces opérations de M&A. Et la littérature de recherche que Emmanuel jette un doute quand même.
60%.
Y a peu de création de valeur. En général, il y a de la destruction de valeur. Il y a peu de deals
détruit de la valeur en grossissant.
Vous regardez la valeur de la cible et la valeur de l'acquéreur. Vous faites la somme des deux. Et
+1 ne fait pas toujours 2.
+1, ça fait 1,8 quoi, le plus souvent.
Dans 60% des cas, les fusions sont un échec au sens où elles ont détruit de la valeur. Ça, c'est les statistiques McKinsey, Harvard.
Et alors, l'explication, toujours du même Thomas Philippon, c'est l'hubris des entreprises. Quoi. Les entreprises veulent grossir.
Toujours plus près du soleil, toujours plus haut, toujours plus fort.
Elles veulent grossir. Elles pensent que tête grosse, ça les protège, etc. Et donc, et elles font des acquisitions en dehors de leur domaine d'expertise. Et c'est regardé par Meta. Le métaverse, c'est un échec à
échec total.
À dizaines de milliards complet. De dollars pour Facebook. Donc, il y a ce problème que ce n'est pas forcément bon signe pour l'économie d'avoir un boom des fusions-acquisitions.
Bon, Erwan.
Et quel est le meilleur révélateur de ces échecs? C'est quand il y a de la concurrence. C'est-à-dire que quand les opérateurs qui sont concentrés sont confrontés à de la concurrence, et ça renvoie indirect à ce qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure sur la responsabilité des politiques. C'est-à-dire que, moi, je serais peut-être un peu plus critique à certains égards des décisions des autorités de concurrence, mais au fond, ce que dit Emmanuel est absolument juste. C'est-à-dire que, d'abord, les autorités de concurrence, elles n'agissent pas librement, en dehors de tout cadre, elles agissent selon le mandat qui leur a été donné par les politiques.
Oui, en qualité d'autorité indépendante.
Ensuite, effectivement, le politique a ce pouvoir d'évocation en France qui était mentionné tout à l'heure. Mais c'est plus simple de désigner l'autorité de la concurrence ou désigner tel responsable, la commission par exemple, que de regarder la réalité. C'est que le problème fondamental de notre économie est qu'elle n'est pas assez compétitive, qu'il n'y a pas de marché unique, on en parlait tout à l'heure, etc. Oui. Et tout ça, ça demande pour y parvenir, que les responsables politiques prennent leurs responsabilités, dessinent un projet, nous expliquent comment on y va, mais on en est encore assez loin.
Mais c'est pas possible. Enfin, l'Europe n'est pas l'Europe, c'est pas une fédération, quoi. Je veux dire. Regardez les éoliennes. Il y a un fabricant éolien compétitif, c'est Vestas, qui est danois. On devrait décider que toutes les éoliennes européennes sont faites par Vestas au Danemark. On devrait décider que le nucléaire est en France, que l'automobile, c'est le sud de l'Allemagne, l'ouest. Et donc, on devrait avoir ces mouvements de la géographie de la spécialité productive, comme aux États-Unis. Mais ça, les gouvernements et les opinions sont
et
pas prêts
à accepter. Et ça se heurte aux États-nations.
Bah oui. On n'est pas prêt à accepter des destructions d'emplois dans un secteur.
Encore une fois, la gouvernance inachevée de l'Europe.
Et puis, on a une énorme protection de l'emploi en Europe. Donc, faire des changements dans la structure sectorielle des emplois, c'est extraordinairement compliqué. Alors que c'est très facile, par exemple, aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'autres obstacles que la concurrence au fait de générer des champions européens.
Bon. Courage et construction européenne, hein, c'est les maîtres mots. Courage, on reboucle avec le début de l'émission. Courage de porter certaines opinions, et puis effectivement, agrandir ce marché européen, l'approfondir, aboutir enfin à cette construction européenne. Merci à tous les trois, Patrick Artus, économiste, conseiller économique de la société de gestion OSIAM, Emmanuel Combes, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Merci à Erwan Lenoant, fondateur de AKA Stratégie, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay.